Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous ai parlé du Centre Pompidou et de sa rénovation prochaine qui allait durer 3 ans. Et j'étais un peu surpris d'une longueur aussi grande qui est donnée à une opération de rénovation qui a été renouvelée il y a 20 ans et pour un bâtiment qui n'est pas si ancien que cela. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des musées en tant que sujet architectural, et on sait que il y a une prolifération très importante de musées d'art moderne dans des bâtiments qui sont des bâtiments créés par les architectes, souvent par concours, mais dans certains pays aussi en désignation directe, en tout cas, qui font de ces musée, une sorte de concurrence internationale, et on peut dire que c'est une banalité que les musées, dans leur concurrence et compétition, comme je vous disais, reprennent on peut dire, la surenchère qui a pu exister au Moyen-Âge pour les cathédrales et les basiliques. Alors, bon, c'est une banalité de dire que l'art aujourd'hui est comme une religion et que les gens font des pèlerinages dans des musées comme on faisait avant des pèlerinages dans les lieux saints à travers la chrétienté et comme ça l'est aussi pour d'autres religions. Mais je voulais aborder ce sujet sur une problématique qui me paraît assez importante, pourquoi construit-on des musées modernes dans des bâtiments neufs dans des pays comme le nôtre qui ont une quantité de bâtiments patrimoniaux? Il y a en France 40 000 châteaux, il y a un nombre d'églises, donc un grand nombre aujourd'hui sont désaffectés, qui est à peu près la même équivalence de 40 000. Donc on se trouve devant un patrimoine, sans compter évidemment des bâtiments qui ne sont ni des églises ni des châteaux, mais qui sont des lieux comme des entrepôts de qualité du 19e siècle. Alors, à Toulouse, justement, il y a eu une rénovation intéressante des abattoirs anciens du 19e siècle qui ont été rénovés d'une manière intéressante pour transformer ces abattoirs en musée d'art moderne. Donc là, effectivement, il y a une double opération. À la fois, on crée un musée qui est un nouveau besoin et en utilisant un bâtiment dont les usages ne sont plus les mêmes. C'était dans le cas précis d'un abattoir. Donc, c'est, me semble-t-il, intéressant justement de faire une pierre deux coups. Et autant des pays comme par exemple les pays du Golfe, qui n'ont évidemment pas de tradition dans la mesure où ils sont dans le désert et il n'y a pas de ville ancienne, on construit au milieu de nulle part des villes et en même temps on construit des musées. Alors évidemment, cela peut se comprendre. Alors le fait que nous ayons besoin d'avoir cette course qui est aussi celle des États-Unis. Mais là, aux États-Unis, là aussi, le contexte est un peu semblable parce que un pays neuf dans lequel il y a une forte croissance et notamment sur les universités, il y a effectivement de nombreux musées modernes qui sont créés en adjonction à souvent des universités anciennes et effectivement on était obligé de construire des bâtiments modernes. Donc l'exemple le plus récent, le plus connu a été le musée Guggenheim à Bilbao. Alors, rappelons brièvement la fondation Guggenheim. Il y a un musée qui est un musée à New York qui a été construit par l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Et cette fondation privée, Guggenheim, qui a une collection extraordinaire, a trouvé comme moyen intéressant, c'est de multiplier des sièges de sa collection. On pouvait la valoriser, échanger, et ce faisant, en demandant, et c'est le cas qui a été celui de Bilbao, à la collectivité de construire, là c'était donc la généralité, et la ville de Bilbao, qui ont construit un musée. Alors ce musée, par l'architecte Guéry, est une sculpture tout à fait étonnante. Le musée a eu un grand succès et a amené un grand nombre de touristes. Alors effectivement, on a eu tendance, parce que c'est intéressant de voir que la culture peut déplacer les foules et aussi transformer une région qui était, on peut dire, si elle n'était pas sous-développée, mais disons, elle avait une mauvaise réputation, qui est assez complexe, le Pays Basque, avec le drame de l'indépendance, de l'ETA. Enfin, tout ça faisait que on a attribué certainement au musée un changement de politique, on peut dire, politique générale, économique de cette région. Et certainement, le musée a eu sa part, mais je ne crois pas au miracle. Et le musée n'a pas été le moteur du changement de cette région. Néanmoins, l'idée que des musées peuvent avoir le même effet que la grotte miraculeuse de Lourdes a fait son chemin, et un grand nombre de villes ont créé des musées d'art moderne qui étaient, bon, à la suite de l'époque précédente où ça a été les opéras qui étaient chargés de représenter la culture du moment. Donc on a les musées d'art moderne. Donc ces musées d'art moderne, souvent, on ne se pose pas trop la question de ce qu'on va y mettre, c'est la forme du musée qui est la plus importante. Et la question que l'on peut poser, par exemple, aux gens qui reviennent de la visite du musée de Bilbao, c'est qu'est-ce que vous avez vu comme œuvre ? Alors, c'est vrai que quand on va au Louvre, on sait pourquoi on y voit. Dans un musée, bon, on connaît la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, la Joconde. Enfin, il y a les différents départements, les impressionnistes et autres, que l'on peut voir dans ce musée. Et il est tout à fait surprenant que les gens qui reviennent de ces musées, ils parlent de la forme du musée, tout à fait étonnante, et ils en ont oublié les œuvres. Bon, il faut dire qu'une visite au musée Guggenheim, on n'est pas dans le silence d'un musée. On voit des enfants qui courent et des gens qui regardent effectivement plus le bâtiment que les œuvres. Mais là, bon, je suis certainement un peu mauvaise langue par rapport à cela. Alors, je reviens à mon propos d'origine, c'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire à grands frais des musées d'art moderne ? Donc, on va parler de quelque chose qui nous concerne dans notre région Occitanie, et c'est le musée Soulages de Rodez qui a eu effectivement, pour Rodez, en tout cas c'est ce qui est dit, le même effet à toute proportion gardée, que le Guggenheim pour Bilbao et pour sa région. Donc, on a construit un musée pour le peintre ruthénois, qui est né donc à Rodez, Pierre Soulages, qui était, disons, assez connu, mais que l'on a pu connaître du grand public beaucoup plus grâce à ce musée. Alors là, il y a une question que l'on peut se poser et que j'avais déjà posée dans l'émission précédente par rapport au musée d'art contemporain, c'est que on a des expositions d'artistes vivants. Donc il y a des musées publics, il s'agit d'argent public, et c'est bien là le problème. Et il est évident que des généreux mécènes qui construisent un musée, une fondation, comme on a pu le voir à Paris avec les milliardaires Arnault et Pinault, qui ont fait des fondations, musées. Là, il s'agit d'un choix qui n'est pas un choix de personne, mais qui est un choix public. Donc, il y a le choix, effectivement, des gens qui vont être dans ces musées publics. Et là, dans le cas de Soulages, c'est un phénomène assez rare, c'est-à-dire qu'on construit un musée du vivant de l'artiste. D'ordinaire, on attend que les gens soient morts, ce qui est le cas à peu près général, pour faire un musée au nom de quelqu'un. Je ne parle pas d'exposition. Alors, ce musée, il a été financé par la ville de Rodez, par le département, par la région Midi-Pyrénées, par les différents organismes, je crois là aussi la direction des affaires culturelles. Donc il y a différents financements, mais qui sont toujours des financements publics. Et donc le phénomène qui s'est passé et qui pose évidemment le problème du musée d'art moderne, ou d'art, plutôt d'art contemporain, c'est que la cote du peintre Pierre Soulages, qui est un monsieur très âgé, qui vient de fêter ses 101 ans, sa cote a grandement augmenté. Donc par exemple, la semaine dernière, il s'est vendu un tableau de Pierre Soulages, qui est un tableau qui fait, je crois, 80 par 60, donc il s'agit d'une dimension assez modeste. Bon, vous le savez qu'il y a une relation souvent en art moderne entre la dimension des tableaux et son prix. Donc, ce tableau s'est vendu quasiment 1,5 million d'euros, ce qui est une somme considérable, sachant que la cote de Soulages, il n'y a pas encore très longtemps, était bien en deçà de ce prix. Je pense qu'un tableau comme celui-là se vendait plutôt dans les 200 000 euros, 150 à 200 000 euros, c'est-à-dire quasiment 10 fois moins. Donc, il y a un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent public et il y a des bénéfices privés. Alors là, ce n'est pas Soulages qui en bénéficie, mais c'est le vendeur du tableau. Mais actuellement, c'est un peintre qui continue de produire, donc malgré son grand âge, donc il produit notamment ce qu'on appelle de l'outre noir, c'est-à-dire des grands panneaux où on a une sorte de bitume noir qui est strié et qui fait sa peinture actuelle. Alors, il est évident, je ne vais pas faire des commentaires sur cela trop longtemps, mais enfin, on peut tout à fait parler de l'art, et c'est assez surprenant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je m'explique ou dont on pourra reparler. C'est l'engouement pour cette peinture, qui est une peinture relativement, on peut dire, pas ignorée, mais en tout cas connue des amateurs, des gens qui aiment l'art moderne. Et effectivement, il y a ce phénomène du musée qui l'a popularisé, et les gens sont allés voir à la fois le musée et sont allés voir les œuvres, avec des jugements qui sont différents, mais surtout avec une sorte d'engouement extraordinaire et qui est au-delà même de ce qu'on peut penser, puisque aucune critique ne peut être émise. Moi-même, ayant fait quelques petits de remarques un peu ironiques sur Facebook, je me suis fait insulter, traiter d'inculte, en mettant en avant le côté un peu répétitif de cette peinture. Donc, On va en reparler après une pause musicale. Oui, j'étais en train de vous parler donc de Soulages et je faisais remarquer que l'art moderne suscite des réactions très tranchées et autant on peut parler du cinéma, de littérature, avec des nuances, avec des opinions qui peuvent ne pas être tranchées, mais peuvent être... On peut dire des critiques par rapport à un auteur ou par rapport à un réalisateur en disant que ce film est mieux que celui-là. Bon, par exemple, une des plus vieilles émissions de la radio sur France Culture, Le Masque et la Plume, on a des critiques qui parlent à la fois de littérature et à la fois de cinéma et d'une manière qui est tout à fait dynamique et critique. Donc il semblerait que ce domaine qui est celui de l'art contemporain suscite des réactions extrêmement, on peut dire, virulentes, assez incompréhensible et qui empêche effectivement l'analyse critique, une critique qui soit un peu plus diversifiée en tout cas que l'anathème du rejet total ou d'une admiration sans borne. Alors, le phénomène dont je vous parlais, qui est effectivement ce problème entre argent public et profit privé, il y a aussi une instrumentalisation qui est faite de l'art moderne, par exemple, à travers le Louvre ou à travers des musées existants ou le château de Versailles, où on a vu des expositions du plasticien américain Jeff Koons et d'autres, Amish Kapoor et d'autres, qui sont exposés dans les jardins de Le Nôtre avec une sorte de caution historique qui est donnée par le château, avec des choix effectivement qui sont assez arbitraires parce que c'est le propre de l'art contemporain, il n'y a pas le recul que donne l'histoire. Et c'est là tout le dilemme. Alors, il est évident que l'histoire est un filtre au niveau de toutes les formes artistiques, en littérature, en musique, en peinture, en sculpture, en architecture, et que le jugement sur le moment est souvent dû à des effets de mode. Et ce n'est pas un phénomène du tout contemporain, mais il y a certaines époques où il y a les choix, on peut dire, officiels, correspondent à ce que l'histoire va sélectionner. Et puis il y a des moments où ça ne l'est pas. Par exemple, la peinture officielle du XIXe siècle, on sait très bien que c'est une peinture des peintres-pompiers et que ce qui est retenu, c'était une peinture un peu plus marginale, sans qu'elle le soit vraiment, qui était celle des impressionnistes ou des pré-impressionnistes comme par exemple Manet ou Courbet. Mais il y a des époques effectivement où le choix du prince, par exemple, Louis XIV, bah, autant en architecture qu'en musique, qu'en littérature ou en théâtre, bah, il est tombé assez juste en soutenant Molière, Racine, etc. Donc, mais c'est comme cela dans toutes les époques. Il y a le temps qui fait son œuvre. Alors, il est évident que dans le cas à la fois de la construction de nos musées, donc de l'architecture du musée. On a pu parler donc de Beaubourg en ayant ce que je vais essayer de vous montrer, c'est une attitude qui n'était pas tranchée, à la fois ce qui a été le rejet total de l'époque, ou qui peut l'être même par certains, et d'avoir une attitude plus nuancée du bâtiment, mais en montrant aussi quelques faiblesses de ce bâtiment, parce que c'est le seul moyen, je pense, de regarder notre époque contemporaine, c'est d'avoir une approche critique et nuancée pour essayer de le comprendre. Donc, dans le cas de Pierre Soulages en tant que peintre, et aussi par rapport au musée, je pense que le fait que ce soit un musée par rapport à d'autres bâtiments, par exemple les dépassements du budget, qui a été considérable dans ce cas, on n'en parle pas, ou du moins c'est quelque chose qui est du domaine de l'obscène, parce que la culture n'a pas de prix, donc quelque part on ne peut pas le critiquer, puisque on l'entend en permanence, on dit on a besoin de culture, et nous avons en France une singulière habitude, et qui est certainement liée peut-être à ce que je disais à l'instant, par rapport au rôle de la royauté, par rapport au rôle du roi, et certainement Louis XIV est une image qui a été, on peut dire même à son époque, mondialisée, du souverain qui éclaire à la fois sa puissance et son importance à travers toutes les formes d'art. Alors, ça a été certainement dans l'imaginaire français une continuité et on pense qu'il n'y a qu'art que public. Donc aujourd'hui, le problème du ministère de la Culture, c'est la demande est une demande auprès de l'État, où on dit s'il n'y a pas le financement de la culture en période, par exemple, sanitaire, eh bien on dit c'est la fin de la culture, et la culture, c'est ce qu'il y a de plus important pour les peuples et pour les individus. Bon, discours connu, mais on pense que ce ne peut être qu'une décision des pouvoirs publics. Attendu que dans la plupart des pays, il n'y a pas de ministère de la Culture et il n'y a pas non plus ce système de subventionnement. Et souvent, les musées, par exemple, aux États-Unis, sont des musées, la plupart des musées sont des musées privés et ne sont pas des musées publics avec effectivement toutes les la nécessité que le privé de boucler son équilibre entre les investissements, la vente des billets pour les expositions, en fait, d'avoir un équilibre commercial. Alors, cet équilibre commercial, il fonctionne, puisque la culture, on achète des tableaux, on achète des billets de cinéma ou de théâtre ou d'opéra, comme on achètera aussi sur des streamings ou d'autres supports musicaux ou cinématographiques. Enfin, disons, comme on achète des livres, la culture est un marché. Donc, c'est un marché, c'est le premier poste d'exportation des États-Unis, et donc, si les États-Unis sont le premier poste d'exportation, c'est que ça ne coûte rien à l'État et aux États américains, mais que c'est, on peut dire, tout bénéfice. Donc, en France, nous avons cette idée que la culture ne peut être que financée par le public. Alors, sans tomber dans le libéralisme américain, on peut penser quand même que il peut y avoir, encore une fois, je me répète, il n'y a pas forcément des profits privés avec des paiements publics. Donc, il pourrait y avoir un certain équilibre et certaines initiatives privées. Alors, je vais me faire peut-être des ennemis, mais on a vu là des manifestations récemment à Toulouse pour un collectif assez sympathique là, qui est des anciens squats mix art Miris, qui est un mélange à la fois de plasticiens et de musiciens, mais qui demandent, qui sont logés par la collectivité, sur des fonds qui ont été, encore une fois, aussi des fonds distribués par département, région, ville, etc., pour l'aménagement de leurs locaux, et qui actuellement demandent 7 à 11 millions pour mettre aux normes leur bâtiment, et qui le demandent comme un dû, attendu que c'est un organisme privé, et qui le demande comme un dû à la collectivité. Donc on se trouve toujours sur ces ambiguïtés, parce qu'effectivement il n'y a pas de contrôle, ou du moins le contrôle de public est très faible, et il n'y a pas non plus d'une demande de résultat, de quelque chose qui est donc cet art spontané, qui est né dans les friches, souvent à partir de squats, que l'on voit à travers plusieurs type associatif dans de nombreuses villes de France. Alors, tout cela est fort sympathique, mais pourquoi justement ces initiatives qui sont de la liberté privée et qui peuvent trouver des formes de financement à travers les ventes, des concerts, etc. Il y a un pays comme le nôtre peut faire ça. Alors, même si il peut y avoir des aides associatives et autres, ce qui ne manque pas dans d'autres pays, on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une liberté totale sans résultat et demander des sommes qui me paraissent assez extravagantes, qui sont le prix d'un lycée, des choses comme ça pour rénover un bâtiment ancien. Bon voilà, donc je vous laisse sur des questions sur la culture. Je sais que c'est un sujet qui est un sujet en France qui tout de suite provoque des réactions vives, mais enfin pourquoi ne pas l'aborder à travers justement ce qui a été le propos de la semaine dernière, qui était le centre Beaubourg et son projet de fermeture et de rénovation pendant 3 ans et qui a permis de parler de choses plus locales, plus près de notre Occitanie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.